le sermon sur la montagne se termine avec ces paroles. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Ce qu'on va dire ce matin, le texte qu'on va regarder, qu'on va étudier, qu'on va méditer, qu'on va appliquer à nos vies, fait partie de cette prédication, fait partie de ces paroles dont Jésus nous fait la promesse à la fin, que si on les met en pratique, nos vies ressembleront à celles d'un homme ou d'une femme qui a bâti sur un rocher. Sur un rocher, j'avais à cœur de dire aussi avant cette prédication, alors qu'on chantait ce chant, on a pris un temps de prière avant le culte ce matin. Et il y a beaucoup de paroles qui parlaient du fait de construire, même de construire sur des cendres. C'était une des paroles prophétiques qui était venue. C'est comme si ce matin, des personnes dont peut-être la vie peut ressembler à des cendres, Dieu va rebâtir sur des ruines. C'est comme si il y a certaines parties de nos vies qui ressemblent à la ville de Jéricho dans l'Ancien Testament, ou à travers la louange, c'est comme s'il y a des murailles, des forteresses qui sont là, qui sont en train de tomber. Ma prière, c'est que c'est ce qui était en train de se passer ce matin, et je suis assez convaincu que c'est le cas. Mais que ce n'est pas seulement des ruines qui sont laissées. Il y a un premier temple qui a été bâti et qui a été détruit. Et la Bible nous dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et je pense c'est bien sûr évidemment une promesse par rapport à la nouvelle alliance, par rapport à l'ancienne alliance. Mais par analogie aussi, on peut voir que dans nos vies, Dieu fait les choses de ces manières-là. Peut-être que votre vie aujourd'hui ressemble à un tas de cendres. Peut-être que votre vie aujourd'hui ressemble à votre vie spirituelle, peut-être, par exemple. Peut-être que ça peut être votre famille. Peut-être que ça peut être des situations que vous avez traversées. On peut penser au monde dans lequel on vit, qui ressemble de bien des manières à un tas de cendres, si on suit un tout petit peu de l'actualité géopolitique. Mais nous avons un Dieu qui est rebâti à neuf sur des cendres. Et donc en ayant dit tout ça, j'aimerais que ma prédication ce matin, ce soit comme si j'étais en train de souffler sur un feu. J'avais à cœur ça en préparant cette prédication, parce que depuis quelques semaines, j'ai eu plusieurs personnes de l'église qui viennent me voir et qui me disent « mais on sent vraiment une différence à Fireplace depuis ces derniers temps ». Quelqu'un m'a dit « c'est comme si on a l'impression que l'église vit à la hauteur de son nom ». On a un nom un petit peu bizarre en tant qu'église, mais Fireplace, la place du feu, le lieu où la présence de Dieu est connue, appréciée, un contexte dans lequel nos vies sont embrasées. Pour certains, c'est comme si vous voyez votre vie spirituelle en ce moment reprendre feu, et j'aimerais juste souffler dessus un petit peu ce matin. Mais il y a aussi des personnes pour qui vous avez l'impression que votre vie spirituelle ressemble à une bougie dont la flamme est toute petite, très fragile, sur le point de s'éteindre. Et j'aimerais qu'on puisse entendre ces paroles aussi de la part de Jésus ce matin comme étant un soin très très doux qui est pris, un petit peu comme quand on se promène avec une bougie et qu'on sait qu'il y a du vent dehors, on met la main dessus pour la protéger. Et j'aimerais que les paroles ce matin soient à la fois comme une sorte d'ouragan et de bourrasque qui viennent souffler sur les flammes d'un feu qui est déjà là, et qui viennent aussi apporter un petit peu de bois sec, un petit peu de douceur et de consolation à ceux dont la vie spirituelle est ballottée. J'ai beaucoup lu cet homme-là en préparation pour cette prédication. Il s'appelle Aidan Tozer. C'est un homme qui vivait à Chicago et puis à Toronto dans les années 1940-1950. On fait fréquemment référence à lui comme un prophète du XXe siècle. C'est quelqu'un qui, même s'il ne croyait pas forcément énormément aux dons spirituels, avait une vie spirituelle tellement forte qu'il a été capable de dire les choses que sa culture avait besoin de l'entendre. Et quand on les lit aujourd'hui en 2023, on se dit « mais c'est comme s'il les écrivait aujourd'hui ». Et il dit ceci par rapport à cette recherche spirituelle: alors qu'un cœur commence cette recherche glorieuse, l'exploration joyeuse des richesses infinies qui se trouvent en Dieu, nous savons où nous débutons. Mais là où nous nous arrêterons, aucun homme ne l'a découvert à ce jour. Car il ne se trouve dans les profondeurs terribles et mystérieuses du Dieu trinitaire ni limite, ni fin. On va parler de notre vie spirituelle ce matin, on va parler de comment Dieu nous appelle à lui et comment Dieu nous appelle à une relation toujours plus forte avec lui. Et donc, si quelque chose a commencé dans votre cœur, si quelque chose commence à l'église, on veut dire plus Seigneur. Et si quelque chose est en train de s'éteindre, on veut dire renouvelle-le Seigneur. Et on va lire ensemble ce texte, Matthieu 6, des versets 1 à 16, et puis on sautera quelques versets plus loin dans Matthieu 6. Jésus commence la partie du sermon sur la montagne où après s'être adressé à la justice des docteurs de la loi, ceux qui disaient « bah oui, on connaît la loi, voilà ce qui est dit, il faut l'obéir à la lettre et puis après il faut contourner aussi quand c'est un petit peu trop sévère », on passe à l'obéissance des pharisiens. Et on va voir en résumé tout ce que c'est que la justice des pharisiens dans ce texte où Jésus dit « gardez-vous bien de faire des dons », là on parle d'argent, « devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste ». Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et donc en dessous de tous ces commentaires, en dessous de tout cet enseignement, de cette prédication du sermon sur la montagne, Jésus est en train de nous demander à nous tous, pourquoi vis-tu ta vie de piété? Pourquoi est-ce que tu le fais? Quelle est ta motivation en dessous? Et si on découvre les motivations derrière notre vie de piété, on va sans doute découvrir les motivations les plus profondes de notre cœur tout entier. Donc cette prédication, j'espère que ce sera aussi une sorte d'intervention chirurgicale à cœur ouvert où on va se poser la question suivante. Où en est mon cœur? Où en est ton cœur? Et donc Jésus parle du pharisien de son époque. Il les appelle des hypocrites et bon, on peut les regarder de haut, mais la réalité, c'est que parfois, on leur ressemble aussi beaucoup. Mais ce qui le repère chez le pharisien, ce n'est pas ses actes. C'est la motivation qui est trahie par leurs actes et la manière des actes. Regardez les pharisiens. Quand ils donnent, ils sonnent de la trompette. « Regardez mon don généreux !» Quand ils prient, il se met debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Quand il jeûne, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'il jeûne. Et donc, qu'est-ce que Jésus dit sur ces pharisiens? Bah, c'est pas bien, bouh, tu vas aller en enfer, t'es un pécheur, honte à toi. Alors, c'est pas comme ça que Jésus l'aborde. À d'autres endroits, il parle de cette manière-là. Enfin, peut-être pas avec ce ton-là, mais il parle du péché, il parle de l'enfer. Jésus ne se cache pas de ces thèmes-là, mais ici, il va avec une approche un petit peu différente. Il aborde la motivation de nos cœurs, en fait, dans ce texte. Il dit, en fait, leurs actes révèlent qu'il y a une certaine motivation derrière ce qu'ils font, derrière leur générosité, derrière leur prière, derrière leur jeûne. En fait, ce qu'il voulait à travers ces actes de piété, c'était d'abord et avant tout d'être bien vu par les hommes. Je donne pour être bien vu par les hommes. Je prie pour être bien vu par les hommes. Je jeûne pour être bien vu par les hommes. Et Jésus leur dit, bah, bravo les pharisiens, ce que vous vouliez, bah, vous l'avez eu. C'est très bien. Vous vouliez être bien vu par les hommes, bah, vous êtes bien vu par les hommes. Tant mieux pour vous. une petite tape sur le dos. Ce que vous vouliez avoir, vous l'avez eu. Mais il le contraste en fait à une autre forme de piété. La générosité qui ne dit à personne combien il donne, mais qui reste profondément généreux. La prière qui ne montre à personne qu'il prie. Le jeûne qui ne révèle à personne qu'il jeûne. Et à ces personnes-là, Jésus dit ceci à 3 reprises. La même phrase. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Alors bon, je ne sais pas si on se rend compte, mais Jésus est en train de nous révéler ici un des plus grands secrets, les plus cachés de l'univers. Un secret tellement grand que des profiteurs ont bâti des ministères entiers pour prétendre donner la réponse à ce secret auquel on cherche tous la réponse. La question, le secret auquel on désire tous connaître la réponse, c'est comment est-ce que je fais pour que la prière, ça marche? Comment est-ce que je fais pour que ma dîme, elle marche? Comment je fais pour que mon jeûne, il marche? Jésus est en train de nous dire, en fait. Et donc, des hommes habiles ont créé des chaînes de télé ou d'Internet qui te disent « Prie comme moi, je te dis de le faire » et tes prières inspirées, elles vont marcher. Et des hommes rusés créent des églises et te disent « Donne comme je te dis de le faire » et ta générosité, elle va marcher. Et d'autres hommes futés organisent des conférences et des veillées et ils te disent « Jeûne comme moi je te dis de le faire » et ton jeûne, il va marcher. Et bien sûr, il y a un panier d'offrandes à la fin. Mais vous voyez, Jésus, il nous dit dans ce texte comment prier, comment donner, comment jeûner de façon à ce que ça marche. Mais en fait, là où Jésus, lui, est particulièrement habile dans le sermon sur la montagne, c'est que, en enseignant sur la piété mal orientée du cœur tortueux des pharisiens, il est en train de braquer le projecteur sur nos cœurs à nous. Qu'est-ce que nous recherchons dans la prière? Autrement dit, où en est ton cœur? Parce que ce que les pharisiens désiraient à travers la prière, ils l'ont eu. Et ce après quoi tu cours dans ta vie, tu finiras sans doute par l'avoir tôt ou tard, si tu y dévoues suffisamment de temps et d'énergie. Mais Jésus ici est en train de nous demander quelle est la recherche la plus profonde de ton cœur. À quoi ça ressemble une dîme qui marche? Est-ce que c'est d'avoir plus de finances? Si oui, ben notre cœur n'est pas meilleur que celui des pharisiens. Si je donne ma dîme parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que Dieu va me bénir, je suis pas mieux que les pharisiens, c'est une autre forme de légalisme. Je fais quelque chose envers Dieu pour que Dieu soit obligé de faire quelque chose envers moi. Leur générosité, c'est un moyen pour eux d'acquérir quelque chose. Leur prière, c'est un moyen pour eux d'acquérir quelque chose. Leur jeûne, c'est un moyen pour eux d'acquérir quelque chose. Et ils sont en train de révéler que ce qui fait leur joie, ce après quoi ils courent, c'est le regard des hommes. Ils montrent ce de quoi ils ont faim et soif, c'est le regard des hommes. Et ce que Jésus dit ici, c'est glaçant. Il dit, en fait, ce qu'ils cherchaient, ils l'ont eu. Et maintenant? Now what? Et pas nous aussi. Nous aurons sans doute dans nos vies ce après quoi nous courons. Et donc la même question nous est posée. Si tu donnes suffisamment de temps et d'énergie à ce après quoi ton cœur est vraiment orienté, tu finiras par l'avoir. Et maintenant? Et quoi? Et les pharisiens vivent dans un monde où la religiosité, c'était un moyen d'avoir une bonne réputation. Nous, on vit dans un monde séculier, dans un monde post-chrétien, où le fait de sembler particulièrement religieux, c'est pas vraiment ça qui fait qu'on fait bonne figure en société. Il y a des choses bien différentes. La consommation, les possessions, la réussite professionnelle, les conquêtes sexuelles, le divertissement. Toutes ces choses sont des choses après lesquelles on nous invite, on nous encourage, on nous catéchise à courir. Rendez-vous compte que les publicités que vous regardez, c'est un catéchisme. Que les cours de fac que vous suivez, c'est un catéchisme. Que les émissions de télé que vous regardez, que les films Netflix que vous regardez, sont des catéchismes. Ils catéchisent notre cœur pour l'orienter vers quelque chose. Et Jésus est en train de dire, où en est ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches le plus profondément? Et si je te dis qu'en priant d'une certaine manière, je te garantis que tu acquerras une de ces choses, Est-ce que c'est ça qui va motiver ta vie de prière? Et c'est possible qu'en donnant suffisamment de temps, tu finisses par réussir là-dedans, mais et quoi? Qu'est-ce que ça change en fin de compte? Où en est ton cœur? Mais ce que Jésus dit quand il dit « Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ». En fait, il est en train d'indiquer quelle devrait être l'orientation des cœurs des disciples. La récompense de la générosité, ce que ton Père te rendra alors que tu donnes en secret, c'est la joie d'avoir été généreux. C'est la joie d'avoir donné et rendu hommage à Dieu et adoré le Seigneur à travers l'acte de ton portefeuille. Si tu donnes pour une autre raison que la récompense que représente en elle-même le fait de donner, la récompense que représente le fait de pouvoir être rempli d'adoration alors que nous donnons, alors nous donnons pour la mauvaise raison. Et c'est un des responsables de l'Église qui dit ça. Hein. Ne donnez pas si c'est pour les mauvaises raisons. Ne donnez pas à Fireplace si c'est pour chercher à acquérir quelque chose d'autre que l'adoration rendue à Dieu à travers l'acte de mon portefeuille. Et alors qu'on donne pour la mauvaise raison, on se prive en fait de la vraie joie, de la meilleure joie, de la joie la plus ultime qui est celle de connaître une communion de louange et d'adoration avec Dieu lui-même. Je donne dans le secret parce que j'aime mon Père et je retire de la joie de dire à mon Père « Je t'aime, même avec mes finances, je t'aime ». Et si tu jeûnes pour une autre raison que la simple récompense, que représente le fait de pouvoir être rempli d'adoration à travers le fait que je me prive même de la nourriture pour pouvoir prendre plus de temps avec mon Père qui est dans les cieux, lui dire tu es plus important même que la nourriture. Alors on jeûne pour la mauvaise raison. Et surtout on se prive de la vraie joie, la meilleure joie, la joie ultime qui est celle de connaître la communion de louange et d'adoration avec le Dieu pour lequel nous jeûnons. Sans le dire à personne d'autre, je jeûne aujourd'hui. Ma récompense, c'est que, c'est pas que les autres sachent dans l'Église que je jeûne. Ma récompense, c'est que j'ai du temps avec mon Père dans les cieux. Ma récompense, c'est que j'ai l'opportunité de dire à mon Père, plus que la nourriture, plus que les choses essentielles, tu es mon essentiel et je t'aime. Et si tu pries pour une autre raison que la récompense que représente le fait de pouvoir être rempli d'adoration et d'admiration, de parler en cœur à cœur, en tête à tête avec mon Père qui est dans les cieux. Alors on prie pour la mauvaise raison et surtout on se prive de la vraie joie, la meilleure joie, la joie ultime, celle de connaître la communion de louange et d'adoration avec Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu que nous prions Dieu. Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu est notre Père. Et parfois, c'est sûr que mes enfants ont des choses à me demander. Mais j'aime bien quand mes enfants ont quelque chose à me demander, de pas simplement, bon, mon enfant vient, il me demande quelque chose. J'aime bien lui dire, viens t'asseoir à côté de moi. Un petit câlin d'abord, puis demande-moi ce que tu as à me demander. Et peut-être que, alors qu'il me demande ce qu'il me demande, si c'est fait dans cette communion de relation, je vais pas seulement lui dire, bah allez, je vais te le donner. C'est vas-y, viens, on y va ensemble et on le fait ensemble. On passe d'une relation transactionnelle à une relation de communion et d'adoration. Et c'est profondément important qu'on se rende compte de ce que Jésus est en train de dire dans ce texte. La récompense de la prière privée n'est pas un bienfait secondaire, qu'il soit matériel ou émotionnel ou relationnel ou quel qu'il soit, que l'on pourrait acquérir à travers nos prières. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu ne répond pas à nos prières et à nos demandes pour des bienfaits matériels, émotionnels, relationnels, etc. Bien sûr que Dieu le fait. On a un Père qui est bon et qui aime donner à ses enfants. Mais l'objectif premier de la prière et la récompense de la prière privée, c'est la joie de la prière privée. La prière privée est sa récompense en elle-même, parce que c'est dans la prière privée que je suis avec mon Père. Ça, c'est ma récompense. Voilà ce que j'en retire. Et donc, mon Père qui me voit dans le secret me le rendra. Et en disant ça, Jésus est en train de nous introduire à une relation avec Dieu qui est enfin authentique. On rentre dans une relation où on aime Dieu pour Dieu, sa présence devient l'objet de notre faim et ça devient ce qui rassasie aussi notre faim. La communion avec lui devient notre soif et ça devient aussi ce qui rassasie, ce qui étanche notre soif. C'est tout simplement ça ma prédication ce matin. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais comprenons que la joie de la prière, la récompense de la prière privée est la joie trouvée dans la prière privée. Alors que je me réjouis en Dieu, que je fais de lui mes délices, je reçois ce que lui seul peut me donner et ce que je trouverai nulle part ailleurs. Que Dieu soit notre plus grand bien. Autrement dit, sommes-nous émerveillés ? Est-ce que je suis émerveillé ? Es-tu émerveillé, captivé par Dieu ? Ou est-ce que les choses de ce monde ont un monopole trop grand sur nos pensées, sur nos affects, ce après quoi nous courons, ce à quoi nous nous donnons, ce qui va nourrir notre joie, notre sentiment de sécurité, notre sentiment d'épanouissement ? Es-tu par-dessus tout, considère ton cœur, où en est ton cœur ? Es-tu par-dessus tout un adorateur ? Ou est-ce que plus que cela, es-tu un consommateur, ou un carriériste, ou un narcisse ? Et es-tu un homme ou une femme de Dieu ? Ou es-tu un homme ou une femme d'affaires ? Es-tu un homme ou une femme de Dieu ou un homme ou une femme de famille ? Es-tu un homme ou une femme de Dieu ou un homme ou une femme de bons délires et de bons temps passés ? C'est pas pour dire que la carrière, la famille et les bons délires sont mauvais. Absolument pas. Dieu nous les donne comme des choses qui font partie de cette bonne vie. Mais sommes-nous d'abord et avant tout définis par le fait que c'est pas que pour les pasteurs et les bishops et je sais pas quoi d'être des hommes et des femmes de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes et des femmes qui, comme Abraham, marchent avec le Seigneur. Es-tu d'abord et avant tout un bon vivant ou es-tu d'abord et avant tout un assoiffé de Dieu ? Qu'est-ce qui préoccupe nos pensées ? Quelles sont les choses qui nous conduisent à la prière ? Est-ce que c'est les besoins de notre vie et parfois c'est des bonnes raisons d'aller vers la prière ? Mais est-ce que c'est dans un contexte où la chose qui me conduit le plus rapidement à la prière ? C'est l'opportunité de prendre du temps avec mon Père qui est dans les cieux. Et mon Père qui est là dans le lieu secret me rencontrera alors que je prends du temps avec lui. Et ce sera ça ma récompense. Et comprenez que je me prêche à moi-même autant qu'au reste de l'Église. Je suis profondément concerné par ces choses, profondément trop distrait, profondément trop obnubilé par d'autres choses, d'autres aspects, d'autres recherches, d'autres poursuites, d'autres fins, d'autres soifs. Mais je veux devenir un adorateur. Je veux devenir un assoiffé de Dieu. Je veux devenir un affamé de Dieu, je veux que le lieu secret soit l'endroit où on me trouve de la façon la plus naturelle. Et donc est-ce qu'on peut dire ce que David dit dans le psaume 5 ? Prête l'oreille à mes paroles éternelles, écoute mes gémissements. Est-ce que c'est vrai de nous ? Est-ce que nous avons des paroles et des gémissements que nous adressons à Dieu ? Sois attentif à mes cris, mon roi. Et mon Dieu, est-ce que nous disons ça à Dieu ? Est-ce que nous avons des cris que nous lançons à notre Dieu ? C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Est-ce que c'est vrai de nous, ça ? Est-ce que Dieu entend notre voix le matin ? Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Est-ce que nous attendons la parole de Dieu le matin ? Et donc le fond de ce texte, c'est une invitation à la communion avec Dieu. Et j'aimerais prendre les quelques dernières minutes à regarder peut-être des objections qu'on pourrait lancer à cet appel, en fait, à être des adorateurs et des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de Dieu avec notre vie tout entière, et particulièrement avec ce temps du lieu secret, le moment passé à part, peut-être le matin, je vous le recommande, avec Dieu. Certains vont me dire, mais moi, ma vie de prière, c'est tout le temps. Je n'ai pas un temps passé à part. C'est tout le temps. Je prie avec Dieu en permanence. Mais bah, dans ce texte, Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte et prends du temps avec ton Père qui est là dans les cieux et il te le rendra. Et donc, est-ce qu'on veut dire que les paroles du serment sur la montagne ne sont pas le bon fondement sur lequel bâtir sa vie et qu'on pense faire mieux que ce que Jésus nous recommande ? Et comprenons que, là, en fait, c'est pas pour dire que la prière perpétuelle est mauvaise, bien sûr que non. Paul dit aussi « prier en tout temps ». Mais la prière focalisée et l'alimentation, c'est le bois que nous donnons pour permettre à ce que la prière perpétuelle brûle le reste de la journée. C'est comme, j'ai déjà donné cet exemple ici à Fireplace, mais bon, pas tout le monde est là, il y a des nouveaux. C'est comme, admettons que, voilà, bon, Rebecca et moi, on est mariés. Je l'aime dans toute ma journée, dans toute ma vie. Et admettons qu'on prenne jamais de temps juste à aller moi ensemble. Je dis non, mais je t'aime dans la vie tous les jours, tu vois. Non. Et je sais très bien que si on n'a pas de temps focalisé l'un avec l'autre, mon amour pour elle en continu tous les jours sera moins fort, sera moins grand, sera moins intense, sera moins focalisé. Elle sera moins présente dans mes pensées si je n'ai pas eu de temps focalisé avec elle attentif. Donc le temps privé alimente la prière perpétuelle. Ne nous contentons pas de l'omniprésence de Dieu. Aspirons à la manifeste présence de Dieu. Une deuxième objection, et je veux vraiment l'entendre, et je sais que c'est le cas de certaines personnes. À Fireplace, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Je suis passé par des saisons comme celle-là aussi, ça nous arrive tous, on appelle ça des saisons de désert. Je ne ressens pas la présence de Dieu. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est mais est-ce que ça veut dire que j'ai un problème ? Et laissez-moi vraiment, à travers cet enseignement de Jésus, être comme aussi prendre soin de cette bougie, de cette petite flamme qui est là. Dieu cherche ton cœur avant tout, pas tes émotions avant tout. Peut-être que parfois au niveau de tes émotions, tu ne le ressens pas. Mais Dieu est en train de te dire, par contre, est-ce que tu veux le vouloir ? Je peux me servir de ça. Peut-être que tu ne veux pas passer du temps avec moi parce que tu ne le ressens pas. Mais est-ce qu'au plus profond de toi, tu veux le vouloir ? Dieu dit, au moins là, je vais te trouver. Au moins là, je vais venir te chercher. Et on peut travailler depuis cette base-là et on va avancer. Et on va grandir. Et c'est comme ce désert, c'est des moments dans lesquels on ne sait même pas à quoi ressemble la minute qui va suivre dans notre relation avec Dieu. Mais comprenez que Dieu est avec vous et à côté de vous dans votre désert. La meilleure façon de nous assurer de sortir du désert, c'est de mettre le prochain pas devant l'autre et d'avancer tout droit. Je ne sais pas combien de temps va durer le désert. Je n'ai pas la vision. Il y a une dune devant moi. Il y a trois dunes devant moi. J'en sais rien. Je suis en haut d'une dune, je continue quand même pas de voir la fin du désert. Mais tu peux t'assurer qu'en mettant un pas de plus devant toi, Dieu à tes côtés, tu finiras par sortir de ce désert. Bernard de Clairvaux a dit ceci, le seul, pour ceux qui se posent la question, mais est-ce que c'est grave, est-ce que Dieu m'a abandonné ? Le seul cœur endurci est celui qui ne sait pas qu'il est endurci. Si tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Est-ce que je suis loin de Dieu ? Le fait même que tu te poses cette question, c'est que Dieu est avec toi. Tu ne te poserais pas cette question si Dieu n'était pas avec toi. Lorsque nous avons le souci de notre froideur, c'est parce que c'est Dieu qui a placé ce souci en nous. Sois encouragé par ça. Dieu est à l'œuvre dans ta vie, même quand tu ne le vois pas et que tu ne le sais pas. Une autre objection, c'est « Mais Nathan, avec cet enseignement sur la prière privée, la contemplation de Dieu, l'adoration, tu vas faire de nous des ermites, tu vas faire de nous des moines. Moi, je suis un homme d'action, une femme d'action, un homme de mission, une femme de mission. » Tozer. Bien au contraire, c'est lorsque nous nous donnons à l'appel divin de l'adoration de Dieu que chacun fera plus qu'il ou elle ne fait aujourd'hui. Seulement ce qu'il ou elle fera contiendra de l'importance, de la signification. Ces actes contiendront la qualité de l'éternité en elles. Elles seront de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, plutôt que du bois, de la paille et de la chaux. Une autre objection qu'on entend particulièrement dans notre âge postmoderne, avec la mentalité de ce siècle qui nous affecte et qui nous infecte, qui dit « mais moi, je sais que j'en ai pas le goût. Et je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas faire semblant, je veux être authentique. » Et bien entendu, Jésus parle contre l'hypocrisie ici. Mais je pense qu'on se fait une mauvaise idée de ce que c'est que l'authenticité réelle. Je l'ai déjà cité dans une de mes prédications préalables dans le Sermon sur la montagne, mais cette citation me semble tellement importante. Il est plus efficace et plus facile de changer notre façon de penser en changeant notre façon d'agir, que de changer notre façon d'agir en changeant notre façon de penser. Parfois, on se dit, il faut que ça change déjà dans ma tête pour que mes actes s'alignent. Non. Parfois, ça demande que je décide de mettre un pas devant l'autre. Y a une dame qui s'appelle Jo Johnson qui a été interviewée sur un podcast qui s'appelle Life and Leadership, qui est organisé et hébergé par notre famille d'église Newground. Mais nos sentiments sont changeants. nos sentiments changent d'un jour à l'autre. Comment rester authentique à ça? Et elle dit, soyez plutôt authentique à tes valeurs. Est-ce que ce que j'ai dans le plus profond de mon cœur, c'est de vouloir connecter avec Dieu? Eh bien, que j'en sente l'envie ou que j'en sente pas l'envie, je veux être authentique à ça. Authentique à mes valeurs. Ça, ça change pas. Ça, c'est solide. Ça, c'est ancré. Sois authentique à tes valeurs. Parce que parfois, quand on est authentique à nos sentiments, on finit par avoir une vie où quand on la regarde, on se dit, en vrai, c'est pas le genre de vie que je veux avoir. Soyons authentiques à nos valeurs plutôt qu'authentiques à nos sentiments et à nos émotions du moment, de la journée. Ça peut, et je sais que ça va avoir le cas même pour des choses comme le fait de participer au culte à l'église, le fait de participer à la réunion de prière. Ce n'est pas seulement les temps privés avec Dieu, c'est toute notre vie spirituelle. Parce que la réalité, c'est que nous avons en nous comme deux lions qui se font la guerre l'un contre l'autre. Le lion qui aspire à plus de Dieu et le lion dans notre cœur qui nous dit « tu veux moins de Dieu ». Et la question est la suivante, lequel de ces lions va gagner ? La réponse est toute simple. Lequel de ces lions va recevoir le plus de nourriture de ta part? Qui nourrissons-nous, en fait? Et ça, c'est par nos actes et par nos décisions. Celui qui l'emportera, c'est celui que nous nourrissons. Est-ce que tu nourris par tes actes, par tes décisions, ta relation avec Dieu? Et John Wesley a envoyé une lettre une fois à un jeune homme qui se voulait un prédicateur et il s'est rendu compte que sa prédication manquait de profondeur, manquait de substance. Et il lui a écrit une lettre par rapport à l'importance de la lecture, mais ce qu'il dit sur la lecture, on peut l'appliquer aussi à la prière. Il mentionne aussi la prière. La lettre concerne pas particulièrement la lecture, pas que de la Bible, mais la lecture plus généralement, lire des choses profondes, lire des choses qui nourrissent l'âme. Mais il dit ceci, c'est un petit peu violent, hein, mais accrochez-vous, c'est John Wesley. Il dit simplement à cet homme, par rapport à la lecture, il dit « oui, mais j'en ai pas envie ». Il lui dit « commence donc, commence, mets du temps à part chaque jour pour les exercices privés. Tu en acquerras peut-être le goût qui t'en manque. Ce qui te semble fastidieux au départ te paraîtra plaisant par la suite. Que tu le veuilles ou non, lis et prie quotidiennement. Il en va de ta vie. Il n'y a pas d'autre voie. Sans cela, tu seras un oisif et un prédicateur bien superficiel toute ta vie durant. » Rends justice à ta propre âme. Donne-lui du temps et des moyens de grandir. Ne le prive plus de cette nourriture essentielle. Prends ta croix et sois un chrétien tout entier. J'aimerais tellement avoir plus de temps pour répondre au comment. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais à quoi ressemble une vie spirituelle? Mais la seule réponse que je peux donner très rapidement est ceci, c'est différent pour chaque personne. C'est peut-être même différent dans chaque saison. Parfois, c'est juste du silence. Parfois, c'est juste 5 minutes. Tu te dis, j'en ai pas le cœur, j'en ai pas l'envie. Pour d'autres, ça va être une demi-heure, ça va être une heure. Hein, c'est de se dire, je veux m'étirer au-delà de là où j'en suis aujourd'hui. Pour certains, ça va demander de mettre son réveil plus tôt. Pour d'autres personnes, ça va demander de se coucher un peu plus tard. Pour certaines personnes, ça va demander d'être plus focalisé. Pour certaines personnes, ça va demander de mettre de côté certaines choses qui prennent trop de notre temps, les réseaux sociaux, etc. Et si vous savez pas comment prier, je ne pourrais pas de façon l'aborder en une seule prédication, mais venez me demander, allez en parler à David. Prenons rendez-vous pour pouvoir en parler, parce que c'est comme un père avec ses enfants. Je n'ai pas un seul mode de relation avec tous mes enfants. J'ai des modes de relation différents avec chacun de mes 3 enfants et notre Père dans les cieux est comme ça avec nous aussi. Mais donnez-vous le mal de dire je veux avancer dans ma vie de prière. Parlez-en avec votre responsable de Braise, quelqu'un que vous connaissez dans l'église, dans votre famille, qui est quelqu'un de qui vous admirez la relation avec Dieu. Demandez-leur, priez peut-être parfois avec quelqu'un. C'est une bonne manière de faire ça. Et on vit dans un monde moderne où certains d'entre nous passons plus de temps à décider qu'est-ce que je vais porter le matin qu'à prier mon Père dans les cieux. C'est tellement triste. On vit dans un monde moderne où on passe parfois plus d'attention à planifier nos vacances. Et je le sais, je suis sur le point de partir en vacances avec d'autres personnes. On a pris plein de temps à le planifier, c'est génial. Mais est-ce qu'on passe plus de temps à faire ça qu'à honorer la présence de Dieu, à nous délecter des mets succulents de sa personne, de son amour et de sa gloire? Et Jésus ne dit pas « si tu pries » ou « si tu jeûnes » ou « si tu donnes ». Il dit « quand ?» tu pries, quand tu jeûnes, quand tu donnes. Donc soyons, comme le dit John Wesley, des chrétiens tout entiers. avec notre vie tout entière. Et donc un tout petit peu de comment faire. Le meilleur conseil, commence et mets un pas à la fois. Ça peut être un tout petit pas, mais fais un pas de plus que là où tu en es aujourd'hui. Dans un instant, on va prendre un temps où on va prier les uns pour les autres. Je vais inviter ceux qui veulent grandir dans leur relation avec Dieu, dans leur vie de prière, de dire à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que ça change. Je vais demander à ces personnes-là d'être bien courageuses et de se lever. Et comprenez que moi, je suis déjà debout. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de prière, d'accord? Vous ne serez pas les seuls à être debout, il y aura au moins moi. Moi, j'ai besoin de recevoir la prière pour ce sujet. Mais commence, fais un petit pas à la fois. Peut-être prie que Dieu t'aide à prendre le prochain petit pas. Et que ce soit aussi quelque chose de réaliste. Tu sais que moi, je suis quelqu'un de très idéaliste. Je me fais des plans sur la comète. Ma vie spirituelle, ça ressemblera à ça. Et j'essaye de faire ça. Et j'arrive là, et je suis là genre, je suis déjà essoufflé. C'était une bonne idée, ça m'a inspiré le temps d'une. Rebecca rigole, elle me connaît très bien. Et on a ce même défi, pour être honnête, par rapport à la vie spirituelle en famille. Et on a dû se décider récemment, alors qu'on aimerait vraiment pouvoir prendre du temps avec Dieu et nos enfants chaque jour. Nous, on s'est dit, OK, on n'arrive pas à le faire, on est mauvais là-dedans, on va le faire au moins une fois par semaine. On va le faire au moins une fois par semaine. Et honnêtement, je suis un des responsables de l'église. Il y a des églises, il y a de ça 100 ans, où j'aurais été mis en discipline d'église pour le fait que je ne conduis pas un temps de prière avec ma famille tous les jours. Merci Seigneur pour sa grâce. Mais au moins, on essaie de le faire une fois par semaine. Et ça, on a réussi à le tenir. On a réussi à le tenir. Enfin, c'est une vraie victoire pour nous, quoi. C'est un vrai truc. Enfin, on se dit, ça fait depuis quelques mois qu'on fait ça et on y arrive. C'est fou. C'est une vraie victoire et c'est des beaux temps en plus. Peut-être qu'un petit pas, c'est ce dont vous avez besoin pour avancer. Et peut-être qu'une fois qu'on a ça bien acquis, bien en poche, peut-être qu'on essaiera d'aller un pas plus loin. J'espère que oui. Mais mieux vaut ce petit pas-là que de rien faire du tout. On prend un petit pas. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas décider aujourd'hui? C'est quoi ton prochain petit pas? Et deuxième et dernière chose, et je vais conclure là-dessus. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide là-dedans. C'est lui qui nous invite dans la prière. On a un esprit en nous qui est en train de crier « Abba, Papa, à notre place ». Nous ne savons pas comment prier. Merci Seigneur pour cette parole dans Romains 8. Nous ne savons pas comment prier. Moi, je ne sais pas comment prier. On a un Esprit Saint qui intercède pour nous, en nous. On a l'Esprit qui est en train de parler au Père, en train de dire « J'ai un Nathan là qui a du mal avec la prière. J'ai des membres de l'Église Fireplace qui ont du mal avec la prière. » Et l'Esprit Saint est en train d'intercéder, en train d'aller parler au Père. En train de dire, papa, fais quelque chose, Père éternel, fais quelque chose pour lui. Est-ce que tu veux bien me renvoyer vers eux avec un feu pour attiser la prière en eux? Et le Père, bien sûr, va dire à l'Esprit-Saint, mais oui, Saint-Esprit, vas-y. Et donc le Saint-Esprit intercède auprès du Père. Le Père mandate l'Esprit pour venir dans notre cœur, pour faire que mon cœur réfractaire et froid crie, Abba, papa, je veux prendre du temps avec Dieu. Peut-être que c'est ce qu'il est en train de faire ce matin. Peut-être que le Saint-Esprit se sert de cette prédication pour réveiller une sorte de « Papa, Père, je veux être avec toi, je veux cette communion de prière avec Dieu. » Nous avons besoin du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'on va prier les uns pour les autres. Donc, est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de revenir? Je vais lire cette dernière citation d'Aidan Tozer. « Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Dieu prend la question de l'adoration, on peut dire de la prière privée, hors des mains des hommes et la place dans les mains du Saint-Esprit qui vit en nous. Il en prend la responsabilité. Nous ne savons pas comment prier, mais nous avons un esprit en nous qui nous aide là-dedans. Il est impossible pour quiconque d'adorer Dieu sans la réception du Saint-Esprit. C'est l'opération de l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables d'adorer Dieu de façon acceptable, à travers la personne que nous appelons Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Amen. Ces paroles sont du rocher sur lequel bâtir nos vies. Et que les personnes ce matin vous dites « Ouais, je veux que ma vie de prière accroisse, grandisse, aille plus loin. » Cette communion avec Dieu, je veux connaître. Peut-être pour certains vous dites « Mais je ne sais pas ce que c'est que trouver ma joie en Dieu. » Peut-être pour d'autres, ça va être, j'ai jamais prié avant, peut-être vous êtes à l'église pour la première fois, mais je veux commencer à prier, je veux commencer à avoir cette relation avec Dieu, elle est possible par Jésus-Christ qui est mort pour toi. qui a donné sa vie pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu, pour que tu puisses vivre cette joie-là. Peut-être que pour d'autres, ça va être j'aspire, j'ai déjà une vie spirituelle qui ressemble de plus en plus à un feu, merci Seigneur, mais je veux que ce soit encore plus, je veux que ça devienne un brasier. Je veux que ça embrasse toute ma vie. Peu importe là où vous en êtes, et on est tous dans des étapes différentes, si vous voulez recevoir la prière par rapport à votre vie de prière, je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît.